Supposons que vous avez le choix entre habiter le long d'un cours d'eau à l'eau bien pure ou à proximité d'une citerne percée. Que choisiriez-vous? Cette question est ridicule, me répondrez-vous. Eh bien, pas tant que ça. En effet, par la voix de son prophète, l'Éternel dit à Israël, « Mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Incroyable mais vrai, les Israélites ont rejeté le seul vrai Dieu et lui ont substitué des idoles de néant. Les 5 premières années du ministère de Jérémie ont précédé la découverte dans le temple du livre de la loi qui était perdu au milieu des décombres. Pendant ce temps, il a donné au peuple 2 séries de messages alors que Josias régnait sur Juda. C'était un bon roi qui se lia d'amitié avec le prophète. À tous les deux, ils s'attaquèrent à l'idolâtrie endémique qui, telle une pieuvre tentaculaire, avait envahi les moindres recoins du royaume. Ils eurent un certain succès, mais qui se révéla superficiel. Je commence à lire le 3e chapitre de Jérémie. Que dire? Si un mari divorce d'avec son épouse, qu'elle le quitte pour appartenir à un autre, est-ce que son ancien mari retournera vers elle? Le pays n'en serait-il pas souillé? Or, toi, qui t'es prostitué avec de nombreux partenaires, tu reviendrais vers moi, déclare l'Éternel. Verset 1. Selon la loi de Moïse, un homme ne pouvait pas reprendre une femme qu'il avait répudiée. Jérémie utilise cette analogie pour présenter, d'un point de vue spirituel, le peuple de Juda sous les traits d'une prostituée entourée de nombreux amants, c'est-à-dire les fausses divinités des peuples environnants. En tant que nation, Juda avait atteint un tel niveau de déchéance que le jugement ne pouvait plus être évité. Néanmoins, au niveau individuel, il était toujours possible de revenir à Dieu. Je continue. Lève les yeux, regarde les hauteurs du pays. Y a-t-il un endroit où tu ne te sois pas livré à l'inconduite? Tu guettais tes amants. Assise sur le bord des chemins comme le bédouin guette ses victimes dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et tes perversités. Verset 2. En hébreu, les images sont d'une crudité à faire rougir un bidas aguerri ou un charretier. Les auteurs sacrés n'avaient pas peur de choquer l'oreille pour toucher la conscience. De même qu'une prostituée ou le bédouin du désert attend le passant au bord du chemin, l'une pour séduire, l'autre pour piller, les habitants de Juda avaient établi des autels idolâtres à tous les coins de rue et à l'entrée des portes des villes. Jérémie les décrit comme étant à la fois la courtisane et le passant. Une idole n'est pas seulement une statue, mais tout ce qui remplace Dieu dans ma vie et dans la vôtre. Comme la recherche du plaisir ou des émotions fortes, par exemple. Le sport et la musique sont des idoles pour des millions, pour ne pas dire des milliards d'individus. Même la convoitise et les autres vices sont des idoles. L'homme est ainsi fait que s'il n'adore pas le Dieu vivant et vrai, il devient idolâtre. Je continue le texte. C'est pourquoi les averses ont été retenues et les dernières pluies ont cessé de tomber. Mais tu as eu le front d'une prostituée et tu as refusé de rougir de ta honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu m'appelles mon père, tu es l'ami de ma jeunesse et tu demandes même, sera-t-il toujours en colère et son ressentiment le gardera-t-il à jamais? Voilà ce que tu dis tout en continuant à commettre le mal avec acharnement. Versets 3 à 5. En Palestine, il existe 2 saisons de pluie sans lesquelles la récolte est compromise, celle d'automne, au moment des semailles, et celle de printemps, un peu avant la maturité des céréales. Même aujourd'hui, le pays d'Israël est très sec. Les Juifs ont cherché du pétrole dans le désert du Négev, mais c'est de l'eau qu'ils ont trouvé, une commodité encore plus précieuse que l'or noir. Quand les descendants d'Israël retourneront chez eux pour entrer dans le millénium, ils ne manqueront de rien et Dieu leur donnera la pluie au moment voulu. Au temps du roi Josias, L'Éternel avait privé son peuple des bénédictions prévues par l'alliance du mont Sinaï parce qu'il voulait l'amener à changer d'attitude, mais ce fut en vain. Au moment où Jérémie donne ce message, le climat politique était relativement tranquille, mais la sécheresse sévissait. Les châtiments divins, aussi bien que les réformes commencées par le pieux roi Josias, ne faisaient qu'amener sur les lèvres des infidèles des formules hypocrites de piété et d'espérance. À partir d'ici va commencer la deuxième série de messages de Jérémie, dans laquelle il annonce au peuple de Juda les châtiments terribles qui vont le frapper et que seule une conversion sincère pourrait ajourner. Le peuple en tant que tel avait atteint un point de non-retour qui fait que leur jugement était déjà arrêté. Cependant, tant que l'Éternel appelle, il y a encore de l'espoir. Pour cette raison, tout enfant prodigue, garçon ou fille, famille, église ou nation, peut toujours retourner à Dieu. Dans la parabole du fils prodigue de l'Évangile, quand ce garnement est rentré à la maison, il n'a subi aucune brimade. Il faut dire qu'il avait déjà eu son compte dans le pays où il s'était rendu. Au contraire, il a été embrassé par son père qui a fait un festin en son honneur. Si l'Éternel accuse son peuple d'infidélité, c'est parce qu'il refuse de courber les chines devant lui. Ce fut l'histoire du royaume des 10 tribus dont un prophète dit « comme une vache rétive, Israël est rétif ». Plus tard, Juda suivit exactement le même schéma que ses frères du Nord. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire monter un bovin récalcitrant dans un camion ou si vous avez assisté à ce spectacle, mais c'est toute une affaire. Subitement, l'animal se cabre. Il se raidit et devient un poids mort d'une tonne qui refuse absolument de bouger. Et au pire, il se laisse même glisser jusqu'au bas de la rampe qu'il avait d'abord grimpée. Le peuple de Juda était comme ça vis-à-vis de l'Éternel. Non seulement il refusait de lui obéir, mais faisait exactement le contraire. Il s'était détourné de Dieu et était allé fricoter avec d'innombrables idoles. Je continue le texte. « L'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait Israël, l'infidèle ? Elle qui allait sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert pour s'y prostituer ?» Verset 6. Le mot « infidèle » est littéralement « celle qui s'est détournée », qui a déserté le domicile conjugal. Le prophète compare d'abord la conduite de Juda à celle des 10 tribus du Nord qui avaient déjà subi le châtiment de Dieu, puisque ces tribus avaient été déportées par les Assyriens. Je continue le texte. « Et moi, je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, Juda la perfide, en a été témoin. Elle a bien vu que j'ai répudié Israël l'infidèle, et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur, Juda la perfide, n'en a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. » Versets 7 et 8. Les épithètes « l'infidèle » et « la perfide » attribuées respectivement à Israël et à Juda jouent le rôle de surnom. Ces blâmes et les métaphores soulignent l'indignation de Dieu devant la conduite coupable des deux royaumes qui constituaient son peuple. Ils sont comparés à deux sœurs mariées qui ont manqué à leur devoir, chacune à sa manière. Cependant, la faute de Juda est plus grave, parce que ces Israélites avaient vu ce qui était arrivé aux 10 tribus du Nord à cause de leur idolâtrie, mais au lieu d'en tirer une leçon salutaire, ils commettaient les mêmes péchés en pire. À la rigueur, on aurait presque pu dire qu'Israël avait péché par ignorance, puisque le royaume des 10 tribus n'avait ni le temple, ni même, semble-t-il, un exemplaire de la loi. Mais Juda, par contre, est sans excuse, car ce royaume a trahi le serment de fidélité à l'Éternel en toute connaissance de cause. D'autres prophètes tiennent le même langage que Jérémie. Ici, l'objectif du prophète n'est pas de censurer le royaume des 10 tribus du Nord qui a disparu, mais de montrer combien la culpabilité de Juda est aggravée par l'exemple du châtiment d'Israël Nord. Je continue le texte. Par la clameur de ses prostitutions, Israël a souillé tout le pays, commettant l'adultère avec des idoles de bois et de pierre. Et malgré tout cela, sa sœur Juda la perfide n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Son retour n'était qu'un leurre. L'Éternel le déclare. Versets 9 et 10. Le prophète rappelle le tumulte des fêtes idolâtres qui avaient lieu partout en Israël Nord, avant que ce royaume soit détruit par les Assyriens. Puis, il montre du doigt le peuple de Juda qui, dans sa majorité, a suivi d'assez loin les réformes religieuses que le bon roi Josias avait entreprises et imposées à la nation. Certes, une partie du peuple s'était repentie de ses mauvaises actions et avait renoué avec l'Éternel, mais c'était une minorité. Les autres avaient suivi le mouvement par obligation, mais sans conviction et sans sincérité, ce qui se révélera de manière flagrante une fois que Josias aura disparu de la scène. En effet, ses successeurs remettront le train de l'idolâtrie sur les rails et les habitants de Juda monteront dedans pour se donner à nouveau corps et âme à la prostitution religieuse grotesque de leurs ancêtres. Je continue. Et l'Éternel me dit, « Israël l'infidèle paraît plus juste que Juda la perfide. » Verset 11. Encore une fois, les habitants de Juda sont sévèrement critiqués parce qu'ils ont été témoins du châtiment subi par le royaume frère du Nord, mais au lieu de le considérer comme un avertissement, ils ont fait pire. Je continue. « Va, écris ces paroles en direction du Nord. Reviens, Israël l'infidèle, l'Éternel le demande. Je n'aurai plus pour toi un visage sévère, car je suis bienveillant. » L'Éternel le déclare, et je ne serai pas en colère à toujours. Verset 12. L'appel est de revenir à la fois à Dieu et dans le pays promis. Cette invitation qui est adressée au peuple des 10 tribus du Nord est surprenante, car cela faisait presque un siècle qu'il avait été déporté en Assyrie. Cependant, les plus pauvres avaient pu rester au pays et d'autres s'étaient réfugiés en Juda, ce qui fait que lorsque Josias organisa la grande fête de la Pâque à Jérusalem, les Israélites des 10 tribus du Nord qui étaient en Palestine y participèrent. Par ailleurs, d'après l'historien juif Joseph, quand les exilés de Juda revinrent de l'exil babylonien, des descendants des captifs des 10 tribus du Nord faisait partie des colons. Ceci dit, les paroles de Jérémie ont aussi une portée prophétique, car elles annoncent la restauration future des descendants des 12 tribus d'Israël au début du millénium, car même sévèrement punis et exilés, les Israélites restent au bénéfice des promesses inconditionnelles que l'Éternel a faites à leurs ancêtres. Je continue le texte. Mais reconnais ta faute, c'est contre l'Éternel, ton Dieu, que tu t'es révolté, et tu as prodigué tes faveurs, çà et là, à des dieux étrangers, sous tous les arbres verts, et tu ne m'as pas écouté, l'Éternel le déclare. Verset 13. L'appel à la repentance est toujours d'actualité et concerne chaque être humain de tous les temps, de toutes les époques, et indépendamment de qui il est ou de ce qu'il a fait. C'était vrai pour les Israélites, c'est vrai pour les Juifs, les Arabes, les Blancs, les Noirs et tous les autres. Je lis un passage du Nouveau Testament. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Fin de citation. Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes afin qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Tout ce que Dieu me demande est de reconnaître mes fautes et d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Je continue le texte. Revenez donc, enfants rebelles, l'Éternel le demande, car c'est moi votre maître, et je vous prends un d'une ville et deux d'une famille pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du discernement. Versets 14 et 15. L'Éternel rappelle à son peuple que c'est lui son maître et non pas l'idole Baal ou une autre divinité. Chez les Hébreux, la famille est très étendue et représente une subdivision principale de la tribu, ce qui fait qu'elle compte plus d'individus qu'une simple ville. Jérémie n'annonce pas le salut en masse du peuple, ni sa restauration politique, mais qu'un certain nombre d'Israélites sera sauvé, surtout à la fin des temps. Contrairement à l'époque de Jérémie, ils seront alors guidés par des bergers fidèles à l'Éternel. Je continue. Or, quand dans le pays vous vous serez multipliés, l'Éternel le déclare, oui, lorsque vous serez devenus très nombreux, alors on ne parlera plus du coffre de l'Alliance de l'Éternel, on n'y pensera plus et l'on ne s'en souviendra plus, il ne manquera à personne et l'on n'en fera pas un autre. Verset 16. Tout au long du livre de Jérémie, apparaît de temps à autre une lueur. C'est un peu comme quand on fait une balade sous un ciel bas et que tout à coup un rayon de soleil perce la voûte grise et réjouit toute la nature. Ici, il s'agit de l'accroissement de la nation qui est un signe de la faveur de Dieu. Pendant le millénium, les anciennes formes religieuses seront abolies. Même le coffre de l'Alliance, qui était considéré comme le marchepied de Dieu, aura disparu. En fait, cela s'est déjà accompli à partir du retour de la captivité et de la construction du second temple dont le lieu très saint resta vide. Ce coffre saint qui représentait la présence et la grâce de Dieu n'était donc en réalité qu'un symbole provisoire. Je continue le texte. À cette époque-là, on nommera Jérusalem trône de l'Éternel et toutes les nations s'assembleront en elle au nom de l'Éternel. Oui, à Jérusalem, elles ne persisteront plus dans leur obstination au mal. En ce temps-là, la communauté de Juda rejoindra celle d'Israël et du pays du Nord. Elles reviendront ensemble vers le pays que j'ai donné en patrimoine à vos ancêtres. Verset 17 et 18. Cette prophétie est l'un des sommets de la révélation de l'Ancien Testament. Ce n'est plus le coffre de l'Alliance qui sera le trône de Dieu, mais toute la ville de Jérusalem. D'autres prophètes avaient déjà annoncé que la ville sainte serait la capitale du royaume de Dieu pendant le millénium et que toutes les nations y afflueraient pour être instruites dans la loi de l'Éternel, mais leurs oracles n'étaient pas aussi précis que celui de Jérémie. Je continue le texte. « Et moi, qui me disais, je voudrais vous traiter comme des fils, j'aimerais vous donner un pays de délices, vous faire entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations. Je me disais aussi, vous m'appellerez père et vous ne cesserez pas de me suivre. » Verset 19. Retour au présent où règnent les ténèbres de l'idolâtrie dans le royaume de Juda. Dans la mesure où le peuple abandonnerait les faux dieux pour retourner à l'Éternel, ce dernier reprendrait son rôle de père. En effet, Dieu était le père de la nation d'Israël. Il a dit à Moïse, « Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. » Cependant, Dieu n'est pas le père des Israélites à titre individuel. Même Moïse ou David n'a pas été appelé fils par Dieu, mais serviteur. Ce n'est que sous le régime de la grâce, aussi appelé Nouvelle Alliance, où nous sommes actuellement, que chaque être humain peut devenir un enfant de Dieu. Je continue. « Mais vous m'avez trahi, ô communauté d'Israël, comme une femme qui trompe son mari, l'Éternel le déclare. » Verset 20. Le prophète Osée avait utilisé la même image vis-à-vis du royaume israélite du Nord. Je continue. Un cri se fait entendre. Sur les lieux élevés, ce sont les pleurs et les supplications des gens du peuple d'Israël, car ils ont adopté une conduite corrompue. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements. Nous voici, nous revenons à toi, car toi, tu es l'Éternel, notre Dieu. Versets 21 et 22. Les réformes religieuses du roi Josias avaient entraîné un réveil partiel. Aux cris joyeux que poussait le peuple dans ses fêtes idolâtres sur les hauteurs succèdent des gémissements de repentance. Dieu promet de pardonner à ceux qui reviennent véritablement à lui. Je continue. « Oui, on nous a trompés là-haut sur les collines et par le tumulte des montagnes, car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui accomplit le salut d'Israël. » Verset 23. Le tumulte des montagnes décrit les réjouissances bruyantes qui accompagnaient le culte aux idoles. Les Israélites repentants reconnaissent que ces fêtes et toutes les activités qui les accompagnaient étaient une vaste tromperie. Le secours ne vient pas des hauts sommets, mais de Dieu. David écrit « Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Je continue. Depuis notre jeunesse, la honte a dévoré tout ce qu'avaient gagné le travail de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, ainsi que leurs fils et leurs filles. Verset 24. Le mot hébreu, traduit par honte, est un terme technique qui désigne l'idole et qui le dégrade en même temps. Les cultes idolâtres avaient un coût exorbitant pour les adorateurs. Leurs troupeaux, mais aussi les enfants que les Israélites offraient sur l'autel des faux dieux comme Moloch. Je finis le chapitre 3. Couchés dans notre honte, nous avons l'infamie pour couverture, car nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous péché contre l'Éternel, notre Dieu, et nous n'avons pas obéi à l'Éternel, lui, notre Dieu. Verset 25. Les Israélites repentants s'ensevelissent dans leur honte en se condamnant, en procédant à leur mea culpa et en s'invitant mutuellement à s'humilier devant Dieu. C'est une excellente initiative. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. »